Quand la lune apparaît sur la ligne d'horizon, je me réveille et hante la maison des dragons. C'est ainsi qu'elle se nomme, cette demeure maudite, mon refuge forcé, mon mausolée, ma crypte. Voilà un demi-siècle qu'erre mon âme en peine dans cette nuit sans fin, dans cette nuit d'ébène. Comme j'aimerais vous raconter mon histoire et enfin triompher, retrouver ma mémoire. En attendant ce jour, dans l'espoir d'un déclic, me voilà condamnée au grand vide amnésique. Comment peut-on oser croire en un avenir quand on a du passé plus aucun souvenir? Je suis Lily Mercier. C'est tout ce qui me reste de ma vie de mortel, de créature terrestre. Je m'appelle Lily. Je n'ai pas survécu. Quelle en est la raison? Je ne m'en souviens plus.
En tant que journaliste, il faut savoir prendre des risques, être prêt à aller aux racines du mal, se confronter aux pires monstruosités. On m'a donné rendez-vous pour une interview à la Maison des Dragons. Je n'hésite pas, je prends mon enregistreur comme s'il s'agissait d'une arme et fonce avec ma Vespa jusqu'à l'antre du démon. Le sang tourne dans ma tête, mon pouls sort de ma peau, mon âme tremble. Ce n'est nul autre que Lily Mercier sur laquelle j'enquête. Lily, victime d'un sort terrible, jeune femme qui ne peut plus se regarder dans la glace car son reflet n'existe plus qu'à l'intérieur d'elle-même, âme dématérialisée dans son cercueil glacé, elle ne peut songer qu'à nul autre que sa mort perdue dans ses souvenirs sordides. Et je veux l'aider à faire un point sur son passé, découvrir avec elle l'origine de cette étrange morsure sur son cou, et qui sait si elle ne serait pas tentée de me mordre en retour. Cette Lily insensée à la recherche de son passé, qui pourrait bien se mettre à tuer dans sa quête de vérité. Les vampires battent le pavé de l'immortalité, et je n'ai pas assez d'une vie pour recueillir leur mémoire. Mords-moi, charmante bête, que je passe mon trépas à questionner ton existence. Folie douce, il est vrai, mais j'ai le contact d'une artiste qui peut m'aider dans ma tâche. Elle connaît très bien Lily Mercier, elle l'a inspirée, lui a donné ses traits, l'a incarnée dans son sommeil. C'est Émilie Simon, la chanteuse, compositrice, productrice et réalisatrice, qui lui consacre son dernier album concept transmédia baptisé Phoenix et qui célébrera sa mort le samedi 18 novembre à la Cigalière de Sérignan. Mais alors Émilie, pourquoi retenir Lily dans vos entrailles? Entretien téléphonique avec une vampire. Bonjour Émilie Simon.
Bonjour, mais j'adore l'intro. Hein. Magnifique.
Lily Mercier est donc personnage fantasmatique, personnage étonnant, mais qui est véritablement Lily Mercier?
Lily Mercier, c'est un personnage qui est venu à moi il y a quelques années, qui a commencé à faire son apparition. C'est un petit peu un puzzle, Lily Mercier. Elle est arrivée avec une envie d'écrire des histoires et de raconter son périple. Et c'est à travers le projet Phoenix qu'elle a vraiment vu naissance, hein, avec sa mort. C'est l'héroïne de l'aventure, en tout cas, de Phoenix.
On peut tour à tour la voir comme une alter ego, une parabole, un fantasme, ou voir un miroir joyeusement monstrueux.
Oui, bah forcément, il y a de la projection, et puis elle est née de moi. Hein. Il y a une partie de moi qui se retrouve dans Lily Mercier. Heureusement, je ne suis pas à l'état de vampire. Non, mais c'est un personnage, un projet, une histoire qui est très symbolique, bien sûr, qui parle à plusieurs niveaux, qui est venue, évidemment, quoi de mieux que la période d'Halloween pour le sortir, donc qui est venue au jour le mois dernier, juste à la veille d'Halloween.
Quelles sont les caractéristiques pour vous principales d'une vampire immortelle, symbole presque de la jeunesse éternelle?
Dans le cas de Lily Mercier, c'est pas vraiment comme ça qu'elle le vit. Non, elle est plutôt dans la non-existence. Donc elle est entre deux dimensions. Elle a été tuée, elle ne se souvient de rien. Elle se réveille un jour vampire et amnésique. Donc, elle ne sait pas ce qui s'est passé, mais elle sait juste qu'elle est devenue un vampire. Et elle reste dans cet état entre deux mondes, puisqu'elle n'est pas, vraiment morte, elle n'est pas vraiment vivante, mais elle est complètement isolée et à l'état presque spectral, hein, jusqu'au jour où, un demi-siècle plus tard, elle va tomber dans le journal sur la photo de quelqu'un qui va lui ramener toute sa mémoire, tout d'un coup. Donc, elle va retrouver la mémoire, et là, ça va déclencher toute une série de réactions. La première étant de de se venger. Et elle a la particularité, sans vouloir dévoiler la fin, parce qu'il faut aller voir ce qui se passe derrière, mais elle a la particularité d'être un vampire qui revient à la vie. Donc en fait, voilà, c'est le retour à la vie de Lily Mercier.
Vous nous plongez ici dans une ambiance horrifique, mais une ambiance horrifique romantique, plus proche d'un film de Tim Burton qu'un véritable film d'horreur. Ce qui est assez agréable justement pour s'imprégner de cet univers.
Oui, c'est pas de l'horreur horreur, hein. C'est plutôt très baroque, très romantique, très victorien. C'est presque, enfin c'est un petit peu drôle parfois. Il faut écouter le conte pour se rendre compte du ton, mais c'est quelque chose qui est quand même très 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 gentil, hein. C'est pas quelque chose de très violent, hein. Enfin, ça raconte quelque chose de violent au fond, mais c'est fait d'une manière très très, je pense, très très ouverte. Je sais pas comment décrire ça.
Oui, c'est véritablement un conte ouvert à tous pour retrouver, oui, aussi ses créatures intérieures presque.
Oui.
À chaque album, vous proposez une ossature différente. Et là, c'est vrai que le terme d'ossature a encore un relief particulier, vu que c'est l'histoire de ce personnage qui revient à la vie. Et donc là aussi, vous avez vraiment pensé une ossature pour cet album qui est encore une fois transmédia, donc qui est en même temps un conte, un album et aussi un moyen-métrage.
Une façon de se plonger dans l'univers, c'était de l'explorer par différentes portes et par différents types d'art. Donc on a la musique avec les 6 morceaux qui sont sur le vinyle. Donc c'est un vinyle qui est en vente uniquement sur mon site internet, qui est une édition limitée collector, ou alors bien sûr qu'on peut écouter sur les plateformes. Donc l'objet physique n'est pas en vente dans les magasins, c'est vraiment uniquement sur mon site.
Okay.
Et c'est face A, on a la musique, donc avec les 6 morceaux. En face B, on a l'histoire avec le conte que je raconte, que j'ai écrit en alexandrin, que je raconte bon, moi-même et que j'ai arrangé comme j'arrangerais une musique de film, avec des passages musicaux qui reprennent le thème des chansons, mais dans une forme différente, un arrangement différent. Et le troisième volet, c'est l'image avec le court-métrage que j'ai réalisé, qui est un film de 15 minutes avec des acteurs qui vient raconter l'histoire de Lily Mercier, mais avec de nouveau un autre angle. Donc, qu'on l'aborde par le côté les chansons ou le conte plus littéraire, on va dire, plus narratif, ou le court-métrage visuel, c'est trois portes d'entrée vers la même histoire et le même univers.
Vinyle d'ailleurs qui est très graphique, couleur sang, et qui fait plaisir avec une typographie qui rappelle un peu l'univers du métal.
Oui, c'est les codes du gothique, du film qui peut d'épouvante, voilà, classique, hein. C'est les couleurs de Lily Mercier, le rouge et le noir, le sang. Oui.
Allez voir là. Fait mal, viser le cœur, toucher la moelle, aller là-haut, c'est infernal, sans armes et sans bruit, les pare-balles. Ouvrir les yeux, enfin,
chaque concert, vous aimez renouveler les formes. Vous avez été à la base de nouveaux instruments désignés avec Cyril Brisseau. Et là, pour votre concert live, on va retrouver l'instrument brass, B-R-A-A-H-S, le brass, qui est une sorte de console que vous portez directement au bras.
Oui, c'est un instrument qui a été mis au point par Cyril Brisseau il y a 20 ans maintenant, à l'époque de mon premier album, qui visait à déclencher des effets sur ma voix pour reproduire ou en tout cas donner continuité aux principes qui étaient sur mon premier album de traitement des voix. Mais voilà, les transposer sur scène avec un système qui soit malléable, qui soit facile à utiliser en temps réel, c'est-à-dire spontanément en live. Et donc, c'était au départ une petite télécommande qui était posée sur mon pied de micro, qui était tout aussi efficace, mais qui, au final, n'était pas idéale parce que d'abord, c'était fixé au pied de micro, ça veut dire que j'étais obligée d'être au pied de micro pour l'utiliser, je pouvais pas bouger sur scène. Et en plus, elle n'était pas très visible parce que du coup, elle était derrière le pied de micro, donc pour voir. Donc, ce qui était intéressant, c'est de se poser la question dans tous les instruments électroniques qui sont fabriqués. Souvent, c'est intéressant de se poser la question du geste instrumental. C'est-à-dire que quand on voit quelqu'un qui joue du violon, on comprend le geste qui est fait avec l'archet, on l'associe à un son et ça prend son sens, on comprend le langage qui est en train d'être mis en place par l'instrumentiste. Pareil avec une guitare, pareil avec un piano. Mais avec les instruments électroniques, il n'y avait pas vraiment ça. Souvent, c'était quelqu'un derrière un ordinateur ou derrière une table de mixage. Donc, en fait, on ne voit pas vraiment un geste instrumental. Et avec le développement de ce bras, c'est un petit peu ce qu'on a peaufiné. C'est-à-dire que le fait de l'avoir sur le bras, c'était quelque chose qui permettait de développer une gestuelle qui vienne accompagner l'effet qui est envoyé. Donc, développer un instrument électronique qui soit aussi poétique, qui soit aussi organique. C'est un instrument qui a été mis au point il y a 20 ans, donc qui est passé du pied de micro à mon bras pour pouvoir bouger avec et développer plus de liberté et cette gestuelle qui est beaucoup plus pratique et en même temps qui prend son sens sur scène. Et il a évolué, il a eu plusieurs générations de bras. En fonction des albums, il y en a eu un qui a été fait pour l'album Big Machine, qui était beaucoup plus steampunk. Et pour les 20 ans, on est revenu au tout premier bras. Donc Cyril l'a retapé. Et c'est un bras qu'on a ressorti et remis en état et qui marche très bien. Et qui se retrouve sur scène maintenant avec cette tournée ES pour justement les 20 ans de ce premier album avec ce rework, cet album que j'ai sorti en tout début d'année pour fêter ces 20 ans-là.
Oui, déjà à l'époque, quand vous utilisiez un théramine sur scène, c'est vrai que la poétique du geste était déjà très très présente dès vos débuts. Et même, vous aviez utilisé aussi un harmonica en verre pour la soundtrack de La Marche de l'Empereur. Ben voilà, c'est très agréable aussi, oui, que vous reveniez toujours avec des nouvelles recherches formelles, sonores, et aussi d'ingénierie.
Oui, merci.
est sur scène, il y a quand même des instruments acoustiques qu'ils ont présents. Vous êtes seul, entouré d'arceaux de lumière. Et donc, vous alternez entre vos instruments et votre appareil et la voix. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce live ?
Oui, c'est un seul en scène. C'est une scénographie qui est très, très réussie, qui a été faite par des gens qui s'appellent Lumière Sonore, avec qui j'ai partagé mes envies de... Voilà, je voyais ces trois cercles de lumière et tout de suite, ils ont complètement compris et on était sur la même longueur d'onde. Et donc, ils ont développé cette scénographie que j'ai trouvée vraiment magnifique, vraiment. Hein. C'est un super travail qu'ils ont fait.
Oui.
Donc, je suis très contente de tourner avec et de pouvoir faire partager tout ça avec le public dans ce salon en scène qui, je pense, était le plus une envie de revenir après quelques années sans tourner, retrouver mon public dans quelque chose qui était très, on va dire, authentique. Un seul en scène avec mes machines, exactement la manière dont je travaille, je fais mes albums.
Pour revenir sur votre compte, vous parlez aussi en filigrane de votre vie d'artiste avec cette Lily Mercier qui était jeune, qui avait une âme tendre, une audace d'artiste et qui finit, sans trop spoiler, par retrouver une âme libre d'artiste et elle se retrouve courageuse et téméraire. J'aimerais un peu revenir sur ces mots, sur ce qui vous inspirait à un moment-là pour dire, tiens, qu'est-ce que c'est en fait une âme d'artiste ? Est-ce qu'il faut être audacieux aujourd'hui pour être artiste ?
Oh. oui, je pense que ça fait partie de... Enfin, l'âme d'artiste, c'est très ludique, c'est beaucoup de fraîcheur, c'est dans le cas de Lily Mercier... quand elle était avant de se faire mordre. C'était un état évidemment naturel d'insouciance et de créativité, de légèreté. Et voilà, c'est toujours l'aspect ludique et de s'amuser avec les choses. Je pense que c'est difficile de décrire hein, ce que c'est. Hein. Mais en tout cas, elle le retrouve. Elle le retrouve à la fin puisqu'elle arrive à revenir à la vie et à retrouver son âme. Je ne sais pas quoi vous dire. Il faut écouter le conte.
Et cette notion de jeu, elle est toujours aussi importante pour vous ?
De jeu ?
Oui.
Oui, je pense. Je pense qu'en fait, quand on s'amuse en faisant sa musique ou autre chose, on est forcément dans le juste, on est forcément dans la vérité. On est dans quelque chose qui est joyeux, on est dans quelque chose qui est vrai, et on ne se pose pas 10 000 questions. Comme les enfants, quand ils jouent, ils sont dans l'instant et il y a une espèce d'authenticité dans le jeu. Donc je pense que oui, quand on est dans le jeu en général, on ne peut pas trop se tromper.
Oui, authenticité, presque d'animalité aussi. Il y a une phrase aussi qui m'avait marqué, vous dites aussi à la fin de ce conte, qu'il paraît qu'on soigne les autres en se soignant. Lily qui dit « j'en suis convaincue et me voilà vivante ».
Oui.
Ça m'avait intrigué, quelle signification a pour vous cette phrase ?
Parce que dans le conte, il faut que les gens écoutent, parce que là, je suis en train de raconter le... Mais quand elle va se soigner, effectivement, elle va aussi soigner Georges, qui est le majordome qui s'occupe d'elle et qui était un zombie, sans même s'en rendre compte. Et c'est vrai qu'on a eu cette croyance qui est que quand on se soigne, on s'ouvre, on va dire, à la lumière et à la guérison, les gens autour de nous, ça rayonne autour de nous. Donc, on va aussi aider les gens autour de nous. Donc, c'était une métaphore de ça. Voilà.
Non, ouais, comme si c'était le versant du vampire qui vampirise et au final, ce vampire peut provoquer.
C'est inversé, exactement. C'est le même fonctionnement à l'envers, dans le positif.
C'est beau, donc une note d'espoir au final, ouais.
Oui.
Le CD donc contre 6 albums, 6 albums très planants. Je sais pas si on a envie de danser, mais on a envie de, je sais pas, c'est très très planant en tout cas cet album. Surtout comment il est fasciné sur tous les titres qui nous rassemblent dans ce côté romantique en effet. Cotico-romantique, c'est très agréable, assez curieux, assez étonnant. Et voilà, sur le temps, les origines du mal, les concepts de pardon et de karma, c'est une histoire qui brasse beaucoup de thèmes au final.
Ouais. En même temps, c'est résumé en 6 morceaux.
Oui.
Bien sûr, il y a de quoi développer sur le sujet. Mais c'est des étapes par lesquelles Lily Mercier passe.
Et pour trouver votre clip, qui est disponible aussi sur la plateforme, telle que YouTube, ça s'appelle Phoenix aussi, ce moyen-métrage ?
Oui, c'est ça. Ça se trouve sur ma page YouTube et ça s'appelle Phoenix, donc c'est facilement trouvable.
Qui accompagne justement les musiques, qui est une sorte de suite de clips et entrevoyée de dialogues avec ces fameuses créatures qui ponctuent la vie de Lily. Eh bien, un grand merci, Émilie Simon.
Merci à vous.
Et hâte de vous retrouver eh bien, sur votre terre natale de l'Hérault, à Sérignan, pour découvrir cet album Phoenix et votre univers musical. Et encore un grand merci.
Merci à vous.
S'il suffisait de
Sorry, hon. You're not going anywhere.